RFI, 8h30, à Paris, 7h30 à Libreville.
RFI Matin.
Nemo en piste, les bureaux de vote ouvrent progressivement leurs portes au Gabon.
Depuis une bonne demi-heure, la journée est fériée pour permettre à chacun des plus de 900 000 électeurs de se rendre aux urnes. Qui donc pour diriger le pays pour les 7 prochaines années? 8 candidats sont en lice. Pour cette présidentielle, nous appelons notre envoyé spécial François Mazet dans une minute. Le PPACI, le PDCI, deux des partis d'opposition en Côte d'Ivoire, réclament un nouveau dialogue politique et suspendent leur participation à la commission électorale indépendante. À 6 mois de la présidentielle, une requête injustifiée, répète le RHDP au pouvoir. Les pays africains doivent-ils s'inquiéter du gel des financements américains et de la guerre commerciale lancée par Donald Trump? Non, réplique l'agence de notation américaine Fitch, qui se veut rassurante pour l'économie du continent. Le dossier de ce journal sera consacré à l'élevage pastoral, notamment au Sénégal. Et puis, la Côte d'Ivoire atteint le dernier carré de la CAN U17 au Maroc. La demi, ce sera justement face aux pays hôtes. L'autre rencontre opposera le Burkina Faso au Mali. Le jour J, au Gabon, 8 candidats en lice pour la présidentielle. L'heure d'ouverture des plus de 3000 bureaux de vote était fixée à 7h heure locale, soit il y a une demi-heure. Notre envoyé spécial, François Mazet, se trouve dans l'un d'entre eux, au lycée Léomba de Libreville. François, le vote a-t-il débuté ?
Alors, il y a un léger retard au démarrage, non pas parce que le matériel électoral n'était pas là, mais parce que certaines consignes sont arrivées un petit peu en retard. Donc, les assesseurs des bureaux de vote doivent signer tous les bulletins, 3 signatures par bulletin pour prouver tout simplement que ces bulletins sont bien ceux du bureau. Donc, ça prend un petit peu de temps. Les premiers électeurs donc prennent leur mal en patience juste à l'entrée, mais on devrait pouvoir commencer vraiment d'ici quelques instants. Le lycée Léomba, c'est un centre de vote assez important. Il y a 4 bureaux, ça représente quand même 1800 inscrits. Les listes sont bien visibles, le matériel est là. Les urnes, les isoloirs, les bulletins des 8 candidats en lice. Les votants pourront venir un petit peu toute la journée. Ils profiteront des transports gratuits puisque les autorités font le nécessaire également en ayant déclaré la journée fériée, et bien pour s'assurer qu'un maximum de gens puissent venir voter pour cette élection.
Et François, justement, 20 mois après le coup d'État ou presque, la participation est l'un des enjeux majeurs de ce scrutin.
Oui, effectivement, enjeu important, la participation, puisque comme on sort de ces 20 mois de transition, il y a forcément un aspect plébiscitaire assez évident à ce scrutin. Stop ou encore pour Brice Clotaire ou Oligui Nguema, c'est un petit peu la question pour résumer. Les 7 autres candidats ont tenté d'exister pendant la campagne, notamment l'ex-premier ministre Alain-Claude Bilibinzé, qui a été très dur dans ses déclarations avec la transition. Il y a aussi des personnalités politiques qui ne participent pas au vote, qui ont appelé soit à voter blanc, soit à s'abstenir. Donc on regardera si beaucoup de Gabonais se sont déplacés aux urnes ce samedi.
Merci François Mazet, envoyé spécial de RFI pour cette élection présidentielle au Gabon. On vous retrouve tout au long de la journée à Libreville.
En Côte d'Ivoire, à présent, le PPACI et le PDCI suspendent leur participation à la CEI.
La commission électorale indépendante qu'ils jugent trop partiale et que les deux partis d'opposition critiquent pour des irrégularités sur la liste électorale. À 6 mois de l'échéance présidentielle et en plus de ce retrait, les partis de Laurent Gbagbo et de Tidiane Thiam réclament un nouveau dialogue politique. Benoît Almeras.
Disqualifié et discrédité, c'est ainsi que Laurent Gbagbo juge la commission électorale. En plus de suspendre la participation de son parti à la CEI, l'ancien président réclame un dialogue politique sincère pour, dit-il, remettre la Côte d'Ivoire sur le chemin d'élections crédibles, inclusives et apaisées. Position défendue par le secrétaire général du PPACI, Jean-Gervais Tcheïdé.
Il y a quel danger à appeler à un dialogue pour qu'on aplanisse les incompréhensions? C'est la meilleure façon d'éviter la crise. L'opposition dans son ensemble appelle à ce dialogue, sinon le gouvernement n'a aucunement l'intention de dialoguer. le porte-parole du gouvernement nous l'a dit.
De son côté, le PDCI de Tidiane Thiam juge cette concertation indispensable pour l'organisation d'élections transparentes. Requête injustifiée en revanche pour le ministre Mamadou Touré, porte-parole adjoint du RHDP, le parti au pouvoir.
C'est du dilatoire. En réalité, cette opposition ne s'est jamais bien préparée pour les élections présidentielles. Elle a eu du retard, elle est minée par des divisions internes. Je pense qu'ils sont conscients de leurs faiblesses, ils sont conscients de leurs limites et on cherche donc des arguments pour justifier sa non-participation à une élection présidentielle.
Mamadou Touré qui rajoute qu'un dialogue politique ne s'impose pas au vu de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
C'est une inquiétude persistante sur le continent africain depuis le début d'année et les innombrables sorties de Donald Trump. Comment garder une économie résiliente? D'abord face au gel de l'aide américaine annoncé par le président, ensuite face à la guerre commerciale qu'il a lui-même lancée. Après son récent revirement, les nouvelles taxes sont retombées à 10% pour tous les pays africains. C'est, quoi qu'il arrive, toujours une augmentation pour ceux qui bénéficiaient de l'AGOA. Pourtant, l'agence de notation Fitch se veut rassurante et n'entrevoit pas de dégradation de la note des États du continent. Plus de détails avec Claire Fage.
Le gel de l'aide américaine et les tensions commerciales ne risquent pas de dégrader la note des économies africaines, rassure Fitch. L'agence de notation américaine estime que l'impact des taxes Trump en Afrique sera limité étant donné la faiblesse relative du marché américain pour le continent, 7% des exportations africaines. La Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, la Namibie demeurent aux yeux de Fitch relativement épargnées par les derniers événements. L'agence de notation américaine maintient ses perspectives de crédit positives. Elle entrevoit même une possible amélioration de la note des Seychelles et du Nigeria grâce aux réformes entreprises dans ces pays. Le gel de l'aide américaine porte certes un coup à l'Afrique. Elle était de loin le premier continent récipiendaire de l'USAID. Comme le FMI, Fitch reconnaît les risques pour les budgets des États les plus pauvres ou dépendants de cette aide, notamment l'Éthiopie, le Mozambique, l'Ouganda ou le Lesotho. Mais l'agence de notation américaine parie sur la place croissante que prendront les banques africaines de développement dans le paysage financier du continent. Elle anticipe aussi une hausse des investissements américains dans les minerais africains.
Claire Fage.
Clap de fin sur la visite au Mali du chef de la diplomatie mauritanienne.
Mohamed Salem Oulmerzoug, reçu par le général Assimi Goïta. Et au cœur des discussions, la lutte contre l'immigration illégale vers l'Europe, la Mauritanie étant l'un des points de passage privilégiés par ceux qui veulent fuir vers le vieux continent. Compte rendu de cette visite dans la correspondance régionale de Serge Daniel.
Plus de 500 corps de jeunes Africains candidats à l'immigration clandestine vers l'Europe ont été repêchés l'an dernier sur les côtes mauritaniennes. En début de cette année, de nombreux cas de décès sont déjà enregistrés. Parmi les pays de départ de ces jeunes, il y a le Mali. C'est cette tragédie humaine que nous devons affronter ensemble, a déclaré à la presse locale le ministre mauritanien après sa rencontre avec le chef de la junte malienne, le général Assimi Goïta. Parmi les mesures pour faire face à la situation, des campagnes de sensibilisation, mais également la lutte contre les réseaux mafieux organisant le trafic. Premier dans le collimateur, les trafiquants de passeports. Plusieurs détenteurs de documents de voyage maliens arrêtés en Mauritanie sont en réalité originaires d'autres pays. Dans le domaine des transports, il y a d'autres membres du réseau des trafiquants. Le Mali et la Mauritanie ont décidé de renforcer leur coopération. Les deux pays vont améliorer, par exemple, le partage des fichiers renseignements. À Bamako, le chef de la diplomatie mauritanienne a également évoqué la situation de nombreux ressortissants maliens résidant dans son pays. Récemment, le Mali a demandé à son voisin plus d'humanité à l'égard de ses ressortissants en situation régulière ou irrégulière. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Le dossier de ce journal, Nemo, est aujourd'hui consacré à l'élevage pastoral.
Oui, Julien, ce modèle basé sur la transhumance du bétail à la recherche de pâturage et de l'eau et qui représente pas moins de 90% de la production de viande rouge consommée en Afrique de l'Ouest. C'est cette mobilité qui fait la particularité de ce type d'élevage, un enjeu majeur pour les communautés qui en vivent. Beaucoup sont basés au Sénégal où les éleveurs, pasteurs sont contraints de chercher d'autres territoires de transhumance, mais pas que. Penaï Traoré.
Retard du début de la saison des pluies, doublées d'une forte variabilité de leur intensité et de leur fréquence, avec un risque d'inondation ou de sécheresse. Les effets du dérèglement climatique touchent aussi l'élevage transhumant, notamment au Sénégal, entraînant parfois une rareté des pâturages et une réduction de l'espace pastoral dans les régions du nord du pays, traditionnellement des terres d'élevage. Les éleveurs sont de plus en plus contraints de chercher d'autres territoires de transhumance en redirigeant leurs parcours vers le sud. Des déplacements devenus des sources de conflits avec les agriculteurs. Il faut donc une gestion concertée et pacifiée des ressources naturelles, car de ces ressources, les pâturages et l'eau dépendent la vie et la survie des communautés pastorales, affirme Stefano Mazzone, vétérinaire et chargé de programme élevage et santé animale à l'AVSF, agronome et vétérinaire sans frontières. Le nouveau code pastoral sénégalais adopté en 2023 et qui attend d'être appliqué devrait aussi faciliter la pratique de cette activité grâce à la mise en place de zones aménagées et des règles d'exploitation de l'espace agro-silvopastoral.
Et l'enjeu est aussi international puisque sous l'impulsion de la Mongolie, l'un des moteurs du secteur, l'ONU a proclamé l'année 2026 année internationale du pastoralisme et des pâturages. Mais les éleveurs transhumants sénégalais s'inquiètent de l'avenir de leur métier tout de même, car certains pays voisins mettent des restrictions dans la transhumance qui constitue pourtant le fondement même du pastoralisme. Khalid Douba est le secrétaire général de l'EGAB, l'entente de groupement associé pour le développement à la base, une organisation agro-pastorale dans la région de Matam et de Louga.
Il y a des éleveurs sénégalais qui quittent ici pour aller au Mali, en Gambie et même en Guinée, qui commencent à interdire la transhumance transfrontalière. Si aujourd'hui il y a un pays qui dit que voilà, c'est fini la transhumance transfrontalière, on a des problèmes. Les pays côtiers aussi, comme le Togo, il y a des restrictions qui commencent à se dessiner. À une partie de l'année, on dit qu'on va fermer les frontières. À cette date, on va ouvrir les frontières. C'est des règles qui ne vont pas favoriser la transhumance transfrontalière. Mais aussi, le Sénégal est dans la zone CEDEAO. Les autres pays commencent à dire que nous, on est alliance des États du Sahel. Est-ce que tout ça ne va pas demain poser des problèmes avec la transhumance transfrontalière? Parce que la CEDEAO a ses règles. L'AS aussi pour avoir des règles différentes, c'est des problèmes qui commencent à nous poser des questions.
Khalid Douba, joint par Penaï Traoré. Et sachez que l'élevage pastoral est également le thème de l'émission Un jour au village, tout à l'heure à partir de 13h10, temps universel.
Enfin, on connaît la composition du dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations U17.
Et le tenant du titre n'y sera pas, le Sénégal éliminé par la Côte d'Ivoire au bout du suspense. Les deux équipes se sont quittées dos à dos 0-0 à la fin du temps réglementaire et il aura fallu disputer une séance de tirs au but pour départager Lionceau de la Teranga et Elefanto. Finalement, c'est la Côte d'Ivoire donc qui rejoint le Maroc en demi-finale. Retour sur cette rencontre avec Mathias Reynal.
Les tambours des supporters se rendent coup pour coup. Dans les tribunes du stade municipal de Bereshid, plusieurs centaines d'Ivoiriens et de Sénégalais, les deux diasporas africaines les plus importantes du Maroc.
C'est la fête, on est quitté depuis Casablanca pour venir vraiment mobiliser. Nous sommes vraiment mobilisés pour la victoire des éléphants.
Mais sur le terrain, ce n'est pas la même ambiance. Les visages sont fermés, le match cadenassé, les tirs sont rares. Alors que l'on approche de la fin du temps réglementaire, le Sénégal rate deux belles occasions, comme si cette rencontre n'avait pas assez usé les nerfs. Il faut aller au tir au but. La Côte d'Ivoire l'emporte et laisse exploser sa joie.
Je suis très 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 content aujourd'hui parce que Côte d'Ivoire ne peut jamais rater quelque chose dans sa vie.
En toute décontraction, lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des éléphantaux, Bassirikki Diabaté.
Le plus important pour nous, c'est de voir les garçons progresser sur certains aspects. Et félicitations à eux face à une très belle équipe sénégalaise, bien structurée. Ils ont su faire preuve de caractère.
En demi-finale, les Ivoiriens feront face aux Marocains qui joueront à domicile. Mathias Reynal, de retour du Bereshid, RFI.
Côte d'Ivoire, Maroc donc et Burkina Faso, Mali pour les demi-finales. Les jeunes aigles aussi venus à bout de leur adversaire au tir au but en quart de finale. Le Mali qui élimine la Tunisie. Et par ailleurs, deux matchs aujourd'hui, Ouganda, Gambie et Égypte, Angola. Les vainqueurs de ces rencontres participeront au Mondial U17 en novembre au Qatar.
Merci des mots en piste.